dans quelques instants sur Fréquence Bonheur, les 6 étapes de la restructuration. Étape numéro 1.
Accéder à la partie de la personne qui est responsable du comportement.
Deuxièmement, mettre en place un signal.
Troisièmement, découvrir des bénéfices secondaires. Ils ne sont pas toujours accessibles à l'esprit conscient.
Étape numéro 4. Faire travailler la partie créative conjointement à la partie responsable du comportement et trouver 3 autres façons de tirer des bénéfices secondaires.
Cinquièmement, opération de vérification. Y a-t-il des objections?
Sixième étape, faire en sorte que la partie responsable du comportement actualise les comportements de remplacement et tester les effets du nouveau comportement.
Pour changer un schéma, on peut changer la signification d'une expérience ou d'un comportement. Prenons un exemple. Quelqu'un fait quelque chose qui ne vous plaît pas et vous attribuez une signification particulière à ce comportement. Imaginons ainsi que vous aimiez faire la cuisine et qu'il soit important pour vous qu'on apprécie vos talents de cuisinier. Vous avez préparé le repas et votre femme mange en silence. Cela vous énerve. Vous pensez que si votre femme aime vos petits plats, elle devrait le dire. Puisqu'elle n'en parle pas, c'est qu'elle ne les trouve pas bons. Comment restructurer la perception que vous avez du comportement de votre femme?
Souvenez-vous que ce qui est important pour vous, c'est que vous tenez à ce qu'on apprécie vos talents. Pour changer la signification de votre schéma de perception, il suffit de donner au comportement de votre femme un sens qui concorde avec ce que vous attendez d'elle, à savoir qu'elle apprécie vos talents. Peut-être votre femme prenait-elle tant de plaisir à ce repas qu'elle préférait consacrer tout le temps qu'elle y passait à manger plutôt qu'à parler? Nos actes en disent souvent plus que nos paroles, non?
Vous pouvez aussi changer la signification du comportement lui-même en vous demandant s'il ne vous est pas arrivé de rester silencieux en mangeant un repas que vous trouviez délicieux. Que se passait-il alors en vous? Le comportement de votre femme n'est énervant qu'à l'intérieur du schéma que vous avez plaqué sur cette situation. Dans un cas comme celui-là, un peu de souplesse suffit à transformer ce schéma.
Penchons-nous maintenant sur l'un de vos comportements que vous n'aimez pas, soit parce qu'il donne de vous une image qui ne vous plaît pas, soit parce qu'il aboutit à des résultats que vous n'appréciez pas. Imaginez maintenant une autre situation ou un autre contexte dans lequel le même comportement vous aiderait à obtenir quelque chose que vous désirez.
Supposons que vous êtes représentant de commerce. Vous vous donnez beaucoup de mal pour connaître chaque détail concernant les produits que vous vendez. Mais vous avez tendance à inonder vos clients d'une telle quantité d'informations qu'ils s'y noient et n'osent prendre une décision. Dans ce cas, demandez-vous dans quel autre contexte ce genre de comportement pourrait se révéler efficace. Ne pourrait-il pas mieux vous servir si vous étiez rédacteur publicitaire ou si vous écriviez dans des revues techniques? Vous pouvez aussi utiliser ces connaissances pour passer des tests professionnels ou même simplement aider vos enfants à faire leurs devoirs. Ce n'est pas, vous le voyez, votre comportement qui constitue en lui-même un problème, mais le cadre dans lequel il est employé. Tout comportement humain possède une utilité dans un certain contexte. On dit que temporiser ne sert à rien, mais ne serait-il pas agréable de remettre au lendemain la colère ou la tristesse d'un moment, et de totalement l'oublier ensuite?
Exercez-vous à restructurer des images ou des expériences qui vous troublent. Pensez à quelqu'un ou à quelque chose dont vous n'arriviez pas à débarrasser votre esprit. Vous rentrez par exemple chez vous après une dure journée de travail et vous ne pensez qu'à ce projet ridicule dont vous a parlé au dernier moment votre patron. Vous êtes furieux, cela vous obsède et vous avez ramené votre colère avec vous au lieu de la laisser derrière la porte de votre bureau. Vous regardez la télévision avec vos enfants mais vous ne suivez pas le film, vous pensez à votre imbécile de patron et à ses projets idiots.
Au lieu de laisser votre cerveau vous faire passer un mauvais week-end, vous pourriez apprendre à restructurer cette expérience de façon à vous sentir bien. Commencez par vous en dissocier. Prenez l'image de votre patron et mettez-la dans votre main. Collez sur son visage une paire de lunettes ridicules, un nez de clown et des moustaches. Donnez-lui une voix aiguë et grinçante de personnage de dessin animé. Imaginez-le amical et chaleureux, en train de vous dire qu'il a besoin de votre aide, en train de vous supplier de l'aider. Vous vous rendrez ensuite peut-être compte qu'il était très tendu et qu'il n'a pas eu le temps de vous parler de ce projet plus tôt. Peut-être vous rappellerez-vous alors qu'il vous est arrivé de vous conduire exactement de la même façon avec quelqu'un d'autre. Demandez-vous si tout cela est suffisamment important pour que vous gâchiez votre week-end. Si vous avez vraiment de bonnes raisons de vous en inquiéter, une fois rentré chez vous.
Le problème existe, je ne le nie pas. Peut-être avez-vous besoin de trouver un autre emploi ou de mieux vous entendre avec votre patron. Mais ce qu'il faut faire, c'est régler ce problème et non vous laisser hanter par quelque spectre sinistre qui vous paralysera et vous fera peut-être agir de façon désagréable avec vos proches. Si vous avez fait ce que je viens de vous expliquer, peut-être lorsque vous vous retrouverez face à votre patron, le verrez-vous avec un nez de clown et des lunettes ridicules et ne ressentirez-vous plus la même chose en l'entendant parler. Ce qui vous fera réagir différemment et créera un nouveau rapport entre vous, extérieur à la dynamique stimulus-réaction qui s'était établie entre vous dans le passé.
Je vous ai donné des exemples de restructuration simple, utilisable face à ce que certains considèrent comme des problèmes majeurs. Dans des situations très complexes, il vous arrivera d'avoir à utiliser toute une série de restructurations simples afin d'atteindre lentement mais sûrement l'état recherché.
Dans son sens le plus large, la restructuration des schémas peut servir à éliminer les sentiments négatifs provoqués par presque toutes les situations envisageables. Nous allons maintenant étudier une des techniques de restructuration les plus efficaces. Imaginez-vous dans une salle de cinéma. Pensez à une situation qui vous trouble et regardez-la se dérouler comme un film sur l'écran. Vous pouvez tout d'abord avoir envie de la voir du début jusqu'à la fin, en séquence rapide, comme s'il s'agissait d'un dessin animé. Ou lui adjoindre un fond de musique de cirque ou d'orgue électrique. Puis, peut-être, ferez-vous passer le film à l'envers et le rendrez-vous ainsi à chaque image de plus en plus absurde. Essayez, vous verrez que ce qui vous troublait perd alors son pouvoir négatif.
Cette technique peut faire disparaître des phobies, mais à condition d'en amplifier chaque étape. Une phobie prend souvent racine à un profond niveau kinesthésique. Aussi, pour réaliser une restructuration efficace, devez-vous prendre vis-à-vis d'elle une plus grande distance. Les réactions phobiques sont si fortes qu'une simple pensée peut les provoquer. Pour en venir à bout, il est indispensable de se dissocier à plusieurs reprises des représentations internes auxquelles elles sont associées. C'est ce qu'on appelle la double dissociation. Si vous avez une phobie particulière, essayez l'exercice suivant.
Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti plein de ressources et plein de vie. Retournez en arrière et mettez-vous dans l'état où vous étiez alors. Ressentez à nouveau cette force, cette confiance en vous. Maintenant, essayez de vous voir entouré d'une bulle brillante qui vous protège. Une fois ainsi protégé, dirigez-vous mentalement vers votre salle de cinéma préférée. Asseyez-vous dans un fauteuil confortable, bien en face de l'écran. Vous devez ensuite vous sentir flotter à l'extérieur de votre corps vers la cabine de projection, toujours à l'intérieur de votre bulle protectrice. Vous êtes maintenant dans la cabine de projection. Regardez dans la salle et voyez-vous assis au milieu des spectateurs devant un écran vide. Ensuite, regardez s'inscrire sur l'écran une image en noir et blanc, immobile, représentant votre phobie ou quelque horrible expérience dont le souvenir vous poursuit. Baissez les yeux pour vous voir assis dans la salle et regardez-vous en train d'observer ce qu'il y a sur l'écran. Vous vous dissociez doublement de cette image. Une fois arrivé à ce stade, animez l'image et faites passer le film en noir et blanc, à l'envers et à un rythme très rapide, comme un vieux film muet ou un mauvais film d'amateur. Regardez-vous en train de le regarder dans la salle et notez vos réactions. Allons plus loin. Je veux que cette partie de vous qui est en pleine possession de ces moyens, celle qui se trouve dans la cabine de projection, redescende en flottant vers l'endroit où votre corps est assis. Puis, vous vous levez et vous marchez jusque devant l'écran. Vous devez arriver à le faire en continuant à vous sentir fort et confiant. Dites ensuite à votre ancien moi que vous l'avez regardé d'en haut et que vous avez trouvé des moyens de l'aider à changer le sens de cette expérience, des restructurations de son schéma grâce auxquelles vous pourrez maintenant et plus tard l'envisager différemment. Des moyens de percevoir l'expérience passée sous un jour plus adulte. Cette souffrance, cette peur est inutile. Vous êtes plus fort maintenant qu'autrefois. Et cette situation dans laquelle vous vous êtes trouvé un jour appartient à votre histoire, mais pas à votre présent ni à votre avenir. Aidez votre ancien moi à affronter quelque chose qu'il ne pouvait supporter jusque-là. Puis, revenez dans le fauteuil et regardez le film se transformer. Repassez la même scène, mais voyez cette fois avec quelle confiance votre ancien moi réagit. Retournez alors de nouveau vers l'écran et félicitez votre ancien moi de s'être libéré de sa phobie, de son traumatisme ou de sa peur. Puis, faites-le rentrer en vous-même en sachant qu'il a maintenant plus de ressources qu'il n'en a jamais eues. Et qu'il représente une part importante de votre vie. Reprenez tout ce processus pour les différentes phobies dont vous souffrez. Et maintenant, riche de cette expérience que vous venez de vivre, vous vous réorientez à votre propre manière et à votre propre rythme dans l'espace où vous vous trouvez. Vous reprenez conscience du son de ma voix, de la musique qui parvient à vos oreilles. Et vous êtes maintenant en mesure d'entendre nos félicitations les plus vives pour l'application avec laquelle vous venez de mettre en pratique ce que nous venons de vous communiquer. Vous pourrez, après avoir pratiqué plusieurs fois cette expérience, utiliser bien entendu cette technique sur les autres.
Cette technique peut s'avérer extraordinairement efficace. J'ai fait ainsi disparaître bien des phobies, libérer bien des gens des peurs qui les hantaient depuis toujours, et quelquefois en quelques minutes.
Pourquoi ces résultats ?
Parce que l'état phobique correspond à des représentations internes spécifiques. En changeant ces représentations, vous transformez l'état que crée la personne phobique quand elle pense à l'expérience en question.
Pour certains, nombre de ces exercices demandent un niveau de discipline mentale et de puissance imaginative qu'ils n'ont encore peut-être jamais atteint. Dans ce cas, plusieurs des stratégies mentales que je vous ai proposées vous paraîtront au premier abord étranges. Votre cerveau, cependant, peut les suivre si vous vous y appliquez. Exercez-vous et vous verrez les progrès que vous réaliserez petit à petit.
Il ne faut pas oublier, quand on parle de restructuration des schémas, que tout comportement humain a un but dans un certain contexte. Si vous fumez, vous ne le faites pas pour imprégner vos poumons de substances cancérigènes. Vous le faites parce que fumer vous détend et vous permet de vous sentir plus à l'aise dans certaines situations sociales. Vous adoptez ce comportement parce que vous y trouvez certains avantages. Vous jugerez parfois impossible de transformer un certain comportement sans nuire au besoin fondamental qu'il satisfait. C'est un problème qui peut apparaître chez ceux qui veulent arrêter de fumer et suivent une cure de désintoxication. Ils cessent de fumer, mais retrouvent ailleurs un comportement tout aussi nuisible, se sentent par exemple continuellement angoissés ou se mettent à trop manger. Je ne dis pas qu'une telle thérapie soit mauvaise en soi, mais qu'il est souvent utile de découvrir l'intention inconsciente d'un comportement afin de trouver une solution plus élégante.
Tout comportement humain est un mécanisme adaptatif. Il doit satisfaire un besoin. Il n'est pas difficile d'arriver à faire détester le tabac aux gens. Mais il faut aussi s'assurer qu'on peut créer chez eux de nouveaux choix comportementaux qui satisferont leurs besoins sans effets secondaires négatifs tels que ceux de la cigarette. Si fumer leur permet de se sentir détendus, confiants ou plus concentrés, il leur faut trouver un comportement de remplacement qui aboutira au même résultat.
Richard Bandler et John Grinder ont mis au point une restructuration des schémas en 6 étapes qui permet de transformer un comportement compréhensible en un comportement désirable tout en maintenant les bénéfices procurés par l'ancien comportement.
Étape numéro 1. Identifiez le schéma ou comportement que vous souhaitez transformer.
Étape numéro 2. Établissez la communication avec la partie de votre cerveau inconscient qui génère ce comportement.
Entrez en vous-même et posez-vous les questions suivantes tout en restant dans un état d'éveil passif qui vous permette de remarquer tout changement dans les sensations, les images ou les sons provoqués par ces questions. Demandez-vous tout d'abord,
est-ce que la part de moi-même qui génère le comportement X veut communiquer avec moi au niveau conscient ?
Demandez ensuite à cette partie de vous-même, appelons-la partie X, d'intensifier le signal donné quand elle veut vous dire oui et de le diminuer quand elle veut vous dire non. Testez maintenant la réaction en demandant à la partie X de vous dire oui, puis non, afin de réussir à distinguer ses réponses.
Étape numéro 3. Séparer intention et comportement.
Remerciez la partie X de bien vouloir coopérer avec vous. Demandez-lui maintenant si elle veut bien vous laisser savoir ce qu'elle a essayé de faire pour vous en générant le comportement X. Tout en lui posant cette question, restez attentif afin d'arriver à détecter sa réponse. Notez les avantages que vous avez tirés de ce comportement dans le passé et remerciez la partie X de vous les avoir procurés.
Numéro 4. Créer des comportements alternatifs qui répondront à l'intention initiale.
Revenez en vous-même et entrez en contact avec la partie la plus créatrice de votre cerveau, puis demandez-lui de générer 3 comportements alternatifs qui réussiront aussi bien ou mieux que le comportement X à satisfaire l'intention de la partie X. Faites en sorte que la partie créatrice vous envoie un signal affirmatif quand elle a généré les 3 comportements. Demandez-lui maintenant si elle veut bien vous révéler ce que sont ces 3 comportements.
Étape numéro 5, faites accepter à la partie X les nouveaux comportements proposés et la responsabilité de les générer quand il le faut.
Demandez à la partie X si les 3 nouveaux comportements sont au moins aussi efficaces que le comportement X. Puis, demandez-lui si elle veut accepter la responsabilité de générer ces nouveaux comportements dans les situations où il faut répondre à son intention.
Étape numéro 6, faites une vérification écologique.
Entrez en vous-même et demandez s'il y a des parties de vous-même qui s'opposent aux négociations que vous venez de mener ou si toutes les parties de vous-même acceptent de vous soutenir. Dirigez-vous maintenant vers l'avenir. Imaginez une situation qui aurait provoqué l'ancien comportement et essayez d'utiliser un des comportements alternatifs pour produire les bénéfices désirés. Puis, imaginez une autre situation qui aurait provoqué l'ancien comportement et essayez d'utiliser un autre comportement alternatif. Si vous percevez un signal vous informant que d'autres parties de vous-même s'opposent à ces nouveaux choix, reprenez tout par le commencement, identifiez la partie qui fait objection, les bénéfices qu'elle vous a procurés dans le passé, et faites-la travailler avec la partie X pour générer de nouveaux choix qui conserveront les bénéfices qu'elle vous a toujours apportés. Il vous paraît peut-être étrange d'avoir à parler à des parties de vous-même, mais ceci est un schéma hypnotique élémentaire dont des gens comme les docteurs Erickson, Bandler et Grinder ont révélé l'utilité.
Si vous mangez trop, par exemple, créez un schéma qui vous fera produire de nouveaux types de comportements ou identifiez votre boulimie comme un comportement que vous désirez changer. Demandez à votre inconscient de vous faire connaître les bénéfices que vous a apporté ce comportement dans le passé. Peut-être découvrirez-vous que vous avez utilisé la nourriture pour compenser un état de solitude. Ou peut-être le fait de manger vous faisait-il vous sentir plus en sécurité et donc plus détendu. Créez ensuite 3 comportements qui satisferont vos besoins de compagnie ou de sécurité. Peut-être pourriez-vous vous inscrire dans un club sportif dont le fonctionnement vous permettra d'entrer en contact avec d'autres gens et d'éprouver ce sentiment de sécurité qu'offrent des moments de détente avec des amis tout en mincissant, ce qui développera ce sentiment de sécurité puisque vous saurez alors que vous avez une belle silhouette. Ou peut-être pourriez-vous, par la méditation, créer en vous un sentiment d'unité avec l'univers entier, lien qui vous sécurisera et vous détendra plus que le fait de manger sans arrêt.
Une fois que vous avez déterminé ces comportements alternatifs, vérifiez que votre moi tout entier désire vous aider à les adopter, ce qui vous permettra d'obtenir ce que vous désirez sans avoir à trop manger pour cela. Puis, projetez-vous dans l'avenir, faites mentalement l'expérience de vos nouveaux choix et notez les résultats produits. Une fois que vous avez découvert ce qui satisferait mieux vos besoins inconscients que ne le faisait l'ancien comportement, vous aurez peut-être même envie de créer un nouveau schéma correspondant au nouveau comportement que vous désirez adopter. Vous vous êtes donné de nouveaux choix.
Presque toutes les expériences apparemment négatives peuvent être restructurées en expériences positives. Combien de fois ne vous êtes-vous pas dit ?
Un jour, je repenserai à tout cela et j'en rirai.
Pourquoi ne pas y penser maintenant et en rire tout de suite ? Ce n'est qu'une question de point de vue.
N'oubliez pas que si vous pouvez reprogrammer les représentations internes des autres en restructurant leur schéma ou par d'autres techniques, si leur ancien comportement leur apportait plus de bénéfices que les nouveaux choix créés, ils y retourneront. Imaginons que je soigne une femme qui a un pied inexplicablement engourdi et que je découvre les opérations mentales et physiologiques grâce auxquelles elle produit cet engourdissement. Puis, qu'elle apprenne à envoyer à son corps de nouveaux signaux qui lui permettront de ne plus le faire. Son problème semble réglé. Mais ce problème réapparaîtra peut-être quand elle rentrera chez elle si les bénéfices que lui apportait son pied engourdi disparaissent. Si son mari ne lave plus la vaisselle, s'il ne fait plus autant attention à elle, ne la masse plus, etc. Au début, il sera peut-être ravi de l'avoir guérie. Pourtant, au bout d'un moment, puisque le problème de sa femme a disparu, non seulement il trouvera normal qu'elle lave la vaisselle, mais il ne la massera plus, ne s'occupera plus d'elle, puisqu'il n'en a plus besoin. Bientôt, l'engourdissement réapparaîtra mystérieusement. Il n'y aura chez cette femme aucune démarche consciente. Pour son inconscient, l'ancien comportement réussit mieux à satisfaire ses désirs et crac, la voilà de nouveau avec un pied engourdi.
Elle doit donc trouver d'autres comportements qui lui fourniront la qualité de relation qu'elle désire avoir avec son mari. Elle doit obtenir davantage du nouveau comportement que de l'ancien. Il y eut ainsi dans un de mes séminaires une femme qui était aveugle depuis 8 ans et semblait étonnamment capable et équilibrée. J'ai découvert par la suite qu'elle n'était pas aveugle du tout. Pourtant, elle avait vécu des années comme si elle l'était.
Pourquoi ?
Elle avait eu un accident à la suite duquel sa vue avait considérablement baissé. Ses proches l'entourèrent alors d'amour et d'attention, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. De plus, elle découvrit que, quoi qu'elle fasse, même les tâches les plus quotidiennes, les gens l'admiraient beaucoup d'y parvenir alors qu'elle était aveugle. On la traitait comme quelqu'un de spécial. Aussi, maintint-elle ce comportement, allant parfois jusqu'à se convaincre elle-même qu'elle était réellement aveugle. C'était le meilleur moyen qu'elle avait trouvé pour qu'on la traite avec attention et amour. Même en dehors de son entourage, les gens avaient envers elle une attitude particulière. Ce comportement ne pouvait changer que si elle y voyait des désavantages plus importants que les bénéfices qu'elle en tirait ou si elle en découvrait un autre présentant de plus grands avantages.
Nous nous sommes concentrés jusqu'ici sur les différentes façons de restructurer une expérience négative en une expérience positive. Mais je ne tiens pas à ce que vous considériez ces techniques comme des thérapies, des moyens de sortir de situations que vous jugez mauvaises pour entrer dans d'autres que vous jugez bonnes. La restructuration des schémas n'est en réalité ni plus ni moins qu'une métaphore de potentiel. Il y a très peu de choses dans notre vie qui ne puissent être restructurées en quelque chose de mieux.
Un des plus importants schémas à prendre en compte est celui des possibilités. Nous tombons souvent dans des ornières où nous nous enlisons. Nous y obtenons peut-être des résultats vaguement satisfaisants, alors que nous pourrions en obtenir des spectaculaires. Aussi, faites l'exercice suivant.
Voici donc cet exercice pour la semaine à venir qui vous remplira, nous en sommes sûrs, de joie, et nous nous quitterons ensuite. Établissez donc une liste de 5 choses que vous faites en ce moment et dont vous êtes assez content, que ce soit dans le domaine de vos relations, de votre travail, de vos finances ou dans tout autre domaine. Sur ce, nous vous disons au revoir et à bientôt.
À bientôt.